pourrait faire des bruits d'animaux aussi dans le générique.
Miaou.
Mmh. Un chien, un cochon.
Il fait les oiseaux, tu fais bien.
Du verre dans les oreilles.
Je pense qu'on aura un super générique.
Donc du coup, on s'est dit que ce serait mieux en allant dans les fermes.
Salut.
Bonjour.
Salut.
Je vois que vous êtes équipés. Vous perdez pas de temps. Entrez. Donc, ici en entrant, le petit salon ou la bibliothèque, en fait, c'est l'ancienne cuisine. Vous avez cet âtre de cheminée qui s'appelle un cantou parce que, enfin, ça c'est typiquement corrézien, cantou parce que on peut s'asseoir dedans. Et à droite du cantou, la bassière, donc l'ancien évier, donc lieu de cuisine. Voilà. Donc après, la salle à manger. Bon, là, à l'occasion, on fera un petit... Je vous présenterai mes ancêtres, à l'occasion. Voilà. Donc cet escalier de pierre distribue toutes les chambres. Donc une première chambre d'hôte. Elles sont toutes... Tout avec salle de bain. Voilà la chambre familiale. Donc ici vous avez la chambre des enfants, la chambre des parents. Et par là-bas la salle de bain. Voilà. Ouais, là c'est immense. Voilà la chambre d'Hélène. J'ai pas monté un peu le chauffage.
Ah oui, c'est là qu'on sera.
C'est là que vous serez. Vous avez deux.
Et c'est là qu'il dit qu'il n'y a pas beaucoup de place pour travailler.
Voilà. Et alors après, là-haut, les futurs appartements. Donc,
Nous voici donc installés pour une semaine au domaine du Mons, en Corrèze. Vous l'avez compris, Raphaël gère 4 chambres d'hôtes de haut standing, et ce n'est pas une mince affaire, puisqu'elle fait aussi table d'hôtes.
Mais si nous rendons visite à Raphaël, c'est bien qu'en plus de faire de l'accueil, elle est agricultrice. Pour elle, ces deux activités sont indissociables et s'insèrent dans un projet global, faire du Mons un support de découverte et de réflexion autour du développement durable.
Construire des projets innovants, les montrer et en parler, voilà qui résume bien la philosophie du lieu.
Donc en fait, je vous amène derrière la maison, tout simplement parce que l'entrée a dû être par ici, à l'époque de sa construction. Donc c'est une maison qui date du 17e, 1620, vous voyez son inscription sur la pierre d'entrée. Donc les Seillac, la famille des Seillac, donc mon nom, hein, est arrivée dans ce lieu en 1747. Voilà. Alors j'ai pas beaucoup d'histoire entre 1747 et 1900 en fait. Hein. Ce que je sais et les témoignages que j'en ai, c'est que mon arrière-grand-père s'est dit « Oulala, mais je vais avoir beaucoup de petits-enfants, je ne pourrai jamais loger tout le monde. » Et donc, il a décidé de construire le deuxième étage. C'était un ingénieur civil d'Eiffel. Il a fait ouvrir la charpente et fait construire ce deuxième étage. Et ce qui fait que, du coup, la maison est devenue une maison habitable avec 360 mètres carrés. Donc, ce qui n'est pas rien, il y a 400 mètres carrés de toiture. Il y a, je crois, 37 fenêtres. 27 radiateurs concrètement. Hein.
Et toi voilà. Du coup tu vis dedans depuis quand?
Alors moi j'y suis arrivée, moi j'en ai hérité en 1996 et 1997. Donc j'ai hérité de ce lieu, je me suis installée sur 12 hectares, les 3 premiers hectares étant ceux qui sont juste sous la maison, donc ce pré-là qu'on appelle le pré grand. Et en même temps j'ai fait 2 ans de travaux entre 2001 et 2003 pour créer 4 chambres d'hôtes. Sachant que sur les 12 hectares, je montais à l'époque un troupeau de 70 brebis, et quand bien même je fais de la vente directe et que je valorise tous mes agneaux comme tels, ça ne me suffit pas pour vivre. Donc voilà. Alors, les choses ont changé puisque de 12 hectares, je suis montée à 40 hectares, que je suis en train de monter un troupeau bovin, et que vivre de 40 hectares, c'est possible. Mais ça prend du temps, enfin, pour caler les choses. Parce que c'est quand même énormément de travail. Enfin, la chambre et la table d'hôte, c'est énormément de travail. Donc, enfin, j'avais calculé en fait que sur toute la saison, on va dire de mai à septembre, c'est 35 heures semaine au bas mot. Donc après, bah, y a la ferme, il y a les foins, il y a les animaux, les paddocks.
T'arrives à 80 heures semaine quasiment. Quoi.
Bah, enfin. Pas loin. Donc une structure très importante pour une femme seule. Enfin, pour moi, c'est absolument pas durable. Je suis proche du pétage de plomb. Après, je suis archi motivée et j'adore mon métier. Mais bon, raisonnablement, enfin, c'est pas du tout de ce dans quoi je m'inscris. Et du coup, je me suis dit très vite qu'il allait falloir, pour que ça ait du sens, le partager avec d'autres. Voilà, encore. Away. Come by. No, come by. Stand, stand. Derrière, Ziggy, derrière. Voilà. Allez, allez, allez. Derrière encore. Voilà. Stand. Encore un, il en manque un. Qui s'est passé? Viens, petit bébé, viens. Ziggy! Ziggy! Je ne suis pas une grande experte de l'aristocratie, mais en tout cas, ce que je peux dire, c'est effectivement, ma famille, en tout cas du côté paternel, est d'un milieu aristocrate et qui a été élevée en tant que telle. Maintenant, la révolution est passée et mon frère comme moi, on compte bien l'incarner, le fait que la révolution soit passée. Les titres et toutes les conneries autour, franchement, ça nous embête l'un comme l'autre. Moi, j'ai plutôt souffert dans mon enfance d'être immédiatement cataloguée dès que je prononçais mon nom, quoi. Et ça m'a toujours gênée. Maintenant, j'en ai fait mon deuil. On va dire. Je me sens ancrée au territoire, aussi par l'investissement que j'ai mis dans ces lieux. C'est plutôt ça. Ce que je dis et ce sur quoi j'insiste, c'est en fait ma problématique au Mons, c'est de effectivement casser cette histoire d'héritage. Moi, en fait, ça m'a empoisonné toute ma vie. J'ai trouvé que j'ai eu beaucoup trop de rapports avec mon père qui concernaient l'héritage. Et j'aurais préféré avoir d'autres rapports que ceux-là. Il n'y a pas de raison pour moi d'avoir ce sentiment de propriété. C'est hors de propos. D'abord parce que c'est très temporaire. Et ensuite, parce que d'autres suivront, feront autrement, et puis c'est bien la terre qui donne, c'est nous qui la mettons en valeur, et elle est plutôt à notre service. Donc le foncier, en dehors du fait que ça coûte cher et ça ne produit rien, et ça pèse sur les résultats de l'exploitation, ça n'a pas de sens adapté, en tout cas, à notre siècle. Voilà. Et puis, on sait combien c'est difficile pour beaucoup de paysans d'avoir de la terre. L'heure est au partage. On peut imaginer un foncier possédé par la collectivité. Ça ne me pose pas de problème. Voilà.
Mais ça devient d'où tout ça? Parce que ce que tu nous disais quand on t'avait vu la première fois, c'est que t'avais été élevée quand même comme une princesse dans un milieu qui a rien à voir avec, avec toutes ces valeurs que tu nous défends ici.
Bah, les valeurs du partage, si, je les tiens de mon éducation, oui. Mais bah, c'est la réflexion, hein. La réflexion, la confrontation, la culture, apprendre à connaître ce qui se fait ailleurs, voilà, ce qui existe ailleurs, de quoi souffrent les gens ailleurs ou de quoi ils sont heureux. Les enjeux aujourd'hui sont tels que nous devons avoir l'eau et la terre en commun et la respecter pour ce qu'elle est et pour parce qu'elle nous fait vivre. On est 6 milliards d'individus, on n'arrivera pas à... Enfin... Si on est encore en train de se battre sur ces choses-là, ben on n'avance pas, en fait. Enfin, c'est une vision un peu indienne, en fait, indien d'Amérique, de voir la chose. C'est-à-dire que c'est plutôt nous appartenons à la Terre, quoi, et c'est pas la Terre qui nous appartient. Donc, enfin, et donc, là, très concrètement, c'est si, on n'achète pas la Terre, quoi. La Terre, on la cultive et elle nous rend, quoi. Et donc... bon, bah, c'est bien, moi j'ai hérité de ça, je suis contente, enfin, je suis privilégiée, je me rends compte de mon privilège, je me rends compte aussi de la difficulté que c'est pour en vivre. Heureusement que je n'ai pas dû l'acheter, parce que là, c'est même pas la peine d'y penser, quoi. Je ne pourrais pas créer l'exploitation que je suis en train de créer si j'avais dû acheter cette terre, quoi, enfin, et que mon père n'avait pas veillé à sa transmission. Donc sur la ferme, donc là en élément décoratif, un pigeonnier qui a servi, je crois, plutôt de grenier à grains. Bon, c'est plutôt joli, hein, c'est sympathique. Après, et en patrimoine bâti aussi, il y a un cercle de pierre qui peut devenir, enfin qui a déjà été un lieu de lecture, mais qui peut devenir un espèce de petit kiosque à musique ou de fête ou de choses comme ça. Mon frère était l'aîné. Héritier mâle, et donc pour lui, mon grand-père a fait bâtir ce cercle. C'est absolument magnifique. Ça, c'est Saruman, la méchante oie, enfin, mais pas avec tous. Il a ses têtes, tu vois, ce sont des visiteurs, ils sont là toute la semaine, tu vas être gentil avec eux, hein. Ouais.
Beaucoup de jolis mots et de grandes phrases, comme toujours dans vos satanés reportages, nous direz-vous. Mais quel projet concrètement derrière tout ça? Vous tombez mal, car des solutions et des projets, Raphaël en a plein. A commencer par transformer la grange, qui lui sert aujourd'hui de bergerie, en salle de spectacle.
Il a sauté dans le... Il a sauté dans la gamelle. Est-ce que vous pouvez vous organiser un peu là? C'est difficile. Hein. Difficile de s'organiser, hein. Hop, et toi là? Tu veux pas téter? Ou toi? Voilà. Attends, un biberon dans une poche. Un biberon dans l'autre poche. C'est trop mignon, hein. Voir cette joie de la nourriture. Oh, sérieux, toi, ça, c'est trop, trop malheureux.
Et tant qu'on est dans ce lieu-là, tu nous disais tout à l'heure que tu aimerais bien que ça devienne un lieu culturel. Je suis sûr que tu t'es déjà laissé rêver et imaginer ce que ça pourrait donner.
Oui, alors, simplement... Bah, laisser la charpente apparente, ce qu'on peut voir, c'est que les arbres ont été cintrés en croissant pour devenir support de la charpente. Là, on le voit bien, c'est magnifique. Et après, très simplement, vider le sol, laisser la vieille étable qui est au fond derrière, et pourquoi pas avoir quelques bêtes en même temps. Un bout de gradin par là, ou de lieu pour pouvoir asseoir la population qui vient, et ici faire une avant-scène relativement grande pour... voilà. Et c'est tout. Enfin, de la même manière que... dans mon exploitation, il n'y a pas des plastiques qui traînent partout, parce que je trouve ça immonde. Et ben, quand les gens sont accueillis, ils ont un cadre qui est beau, enfin voilà, ils ont de l'esthétique, quoi. Ça fait partie du truc, quoi. Simple et beau. Pas de superflu, mais du professionnalisme par rapport à la façon dont on accueille et ce que l'on accueille. Considérer aussi que ceux qui jouent ont des statuts suffisamment pourris pour qu'on ne participe pas de cela, quoi. Et puis après, ça nous permet aussi d'être exigeants par rapport à ceux qu'on fait venir, quoi. C'est ça. Voilà.
Récapitulons. Un héritage lourd d'entretien est difficile à transmettre. Des envies de partage et d'équité, un rejet de la privatisation du foncier, une somme de travail impressionnante, et surtout une petite dame débordante d'énergie et qui a ses valeurs. Alors comment résoudre une telle équation ?
Donc, le projet, qu'est-ce que c'est ? C'est donc de créer une fondation qui serait dédiée... on va dire, pour faire court, à des valeurs que je porte, qui sont le développement durable, l'équité, la culture, et faire de ce lieu un lieu dans lequel tout un chacun pourrait venir s'installer, pourvu qu'il porte ces valeurs, et participer à la vie de ce lieu, et en même temps, créer son métier ou sa façon de vivre comme il l'entend. Alors la fondation, en fait, pourquoi la fondation ? Tout simplement parce que quand on donne quelque chose, comme cela, ça sort l'élément de la spéculation. La terre est un beau patrimoine, même s'il n'est pas forcément très rentable, il n'est pas question de spéculer là-dessus, il est à disposition de ceux qui vont y travailler, d'autres vont travailler autour parce qu'ils seront intégrés au lieu. L'équilibre doit pouvoir se faire autour de ce patrimoine. Voilà. Il peut aussi y avoir des gens qui ne sont pas du tout du métier et ne sont pas forcément si intéressés que ça par l'agriculture, mais qui sont tout simplement artisans et qui cherchent un lieu pour vivre. Je prends artisan, mais enfin, il y a plein d'autres choses. Qui cherchent un lieu pour vivre et donc qui voudraient se rapprocher d'ici. Avec l'idée de aussi participer à, aux choses culturelles. Et donc, cela aurait tout à fait leur place, pourvu qu'ils partagent nos valeurs.
Est-ce qu'il y a une idée d'économie commune, forcément, ou pas ? Parce que, par exemple, si moi je suis artisan, boulanger ou couturier, que je m'installe ici, mon économie, elle n'est pas forcément liée avec l'économie des autres activités qui sont sur le lieu.
Si tu es artisan, non, bien sûr que non. Tu n'as pas de... Non, tu n'as pas de compte à me rendre en aucun cas. L'idée, c'est un privilège que de vivre sur ce lieu, parce que c'est un très beau patrimoine. L'association va réfléchir à une forme de participation aux frais de ce lieu. Voilà. Mais ça, c'est pas moi, c'est pas de la spéculation, c'est une réflexion équitable de ce qui peut être partagé entre nous.
Et pour autant, c'est pas une communauté parce que chacun pourra construire sa maison, ce que tu nous disais.
Voilà. Pour pouvoir accueillir du monde, il s'agit bien de trouver un lieu qui est à proximité pour pouvoir vivre de l'ambiance, enfin vivre avec l'ambiance qui s'installe ici, participer à des actions collectives ou culturelles. Donc je dédierai une parcelle à la formation d'une SCI, Société Civile Immobilière, pour que les gens puissent investir, construire leur maison, avec une intelligence collective et écologique, on va dire. Donc ça, ça résout, en partie en tout cas, l'idée d'avoir un chez-soi appartenant à soi.
Bien, Manise. Oh, que tu es belle. Tu ressembles à un auroch. Elle est belle, hein? Non? Et ça, c'est le merle qui parle. Donc, l'idée, sur le troupeau de vaches, c'était plutôt un peu de m'amuser. Donc, j'ai choisi des races, enfin, différentes races. Des races rustiques, bien adaptées à la valorisation de l'herbe. Donc rustique, ça veut dire qui supporte la vie en plein air toute l'année, qui se contente de manger du foin et de l'herbe, hein, et qui s'engraisse justement à l'herbe. J'ai deux limousines. Une, celle qui est en train de se gratter sous l'arbre, là, Zora, avec son petit. Et Crème, la mère de Fortuné, qu'on a vu tout à l'heure. Qui est la seule, elle est là-bas derrière, qui n'a pas de corne. Voilà. Ensuite, il y a les deux aubraques, Manille et Renette, au fond. Et ensuite, j'ai deux salers, alors une noire, merle, et une rousse licorne, je ne la vois pas. Les deux dernières sont deux gasconnes, les deux grises, qui ont eu deux petits qui sont nés ici. Et celles-là, elles viennent de l'éleveur qui est aussi mon formateur chien de troupeau.
Et là, voilà. Ton chien Ziggy, avec les vaches, t'arrives à en faire quelque chose?
Oui, mais sauf que c'est une confrontation permanente. C'est-à-dire que pour l'instant, Ziggy, au départ, déjà, il a eu beaucoup de mal et il s'est fait sortir un certain nombre de fois. Donc, il a perdu confiance et il ne voulait plus trop y aller. Alors, j'ai appris à me positionner pour l'aider. C'est un rapport triangulaire, hein. Il y a le troupeau, le chien et l'éleveur. Et donc, il y a une espèce de coopération, coordination qui s'établit. On apprend aussi le fonctionnement du troupeau, pourquoi ça fonctionne comme ça, qui domine, qui fuit, qui fait quoi à l'intérieur de ça, quoi. On s'améliore, on fait des progrès, on ne sait pas tout faire tout de suite, voilà. Mais on voudrait tout savoir. Dans la théorie, on sait faire beaucoup de choses. Et dans la pratique, incarner cette vie-là, c'est une grande leçon d'humilité, quoi. Et c'est bien, mais je crois que j'en ai bavé, quoi. Hein, voilà. Et j'en baverai encore. Mais en tout cas, ça marche, quoi. C'est drôlement plaisant. C'est drôlement plaisant. Et pour soi-même, de se temporiser, de vivre la temporalité du... Je ne sais pas si ça a du sens de dire ça, mais au rythme du troupeau, c'est très beau. Ouais. C'est revenir à l'essence, quoi.
Dans les projets ambitieux qu'elle met en place sur son domaine comme dans sa vie quotidienne, Raphaël ne cesse de s'interroger sur son rapport au temps et cette essence, cette réalisation de chacun. Et si au fond c'était un peu ça le développement durable, se trouver et s'accomplir.
Comme le dit Raphaël, soyons ce que nous devons être. Et si trouver sa place passait justement par trouver ses valeurs, les respecter, les faire évoluer et les transmettre.
En arrivant au Mons, on se posait des questions. Et au bout d'une semaine, on s'en posait trois fois plus. Mais avec la certitude d'avoir avancé, d'avoir compris quelque chose. Reste à savoir quoi.
Alors merci Raphaël pour ce on ne sait quoi et pour tout le reste. Et merci pour ces mêmes raisons et toutes les discussions qu'on a pu avoir à Gwenaël, Tiphaine et à Frédéric.
L'épisode que vous venez d'entendre a été entièrement brodé à la main et réalisé avec des techniques artisanales par Goulven Maréchal et Alexilis.
Nous tenons à signaler qu'aucun paysan n'a été maltraité durant ce tournage.
Et si vous voulez en savoir plus sur notre projet, consulter des photos, des épisodes inédits et des bonus réalisés dans d'autres exploitations, vous pouvez nous retrouver sur notre site internet
www.duverdanslesoreilles.fr.